pourra pas intervenir comme prévu, donc je remplace. On intervertira peut-être. Donc moi, je vais, pour ceux qui ont un mail, je les ai prévenus, pour ceux qui ont posé la présence aujourd'hui. Donc je vais parler de droits et pouvoirs. Je pense que dans cette série de conférences sur la nomologie, on ne se fonde pas assez sur les philosophes du droit, vous pouvez les lire, hein, que ce soit Kelsen, Carl Schmitt, des pincettes, quelques autres, hein. Enfin, effectivement, ils ne sont pas vus. Ça dépend, faut chercher. Carl Schmitt, parce que il a sévi longtemps, hein, de 1888 où il est né à, je crois, 1984. Enfin, pratiquement, il n'a pas été centenaire, mais tout juste. Enfin, il a surtout, il a essayé de se placer avec les nazis, mais ils n'ont pas voulu de lui parce qu'il n'était pas assez réact, semble-t-il. Il s'est fait jeter, il a eu un dépit, etc. Mais, donc, ce truc qui s'appelle « Théorie de la Constitution », il l'a écrit en 1919, si je me souviens bien. J'ai l'impression que c'est un peu précoce, 1919. Non, non, je confonds avec la Constitution autrichienne que j'ai faite, c'est, je crois, 1928. Donc, c'était à utiliser par les nazis. 1928, voilà. Donc il y a des rééditions en 1950, il fait un avant-propos en 1950, donc quoi, il n'est pas gêné par ses rapports aux nazis. Hein. Donc faut voir ça. Donc je voulais discuter, j'ai peut-être dans le papier que j'ai envoyé en mail, là, parler de droit et pouvoir au pluriel, je pense qu'il faudrait peut-être en parler au singulier. Il y a un certain nombre de trucs intéressants. Entre autres, dans un numéro critique sur juristes et philosophes, je confonds avec un autre bouquin, hein, c'est pas dans celui-là, c'est dans un autre numéro critique, je n'ai pas pris le bon, où un philosophe du droit spécifie tout à fait que chez Kelsen, les rapports à l'État indiquent bien qu'il n'y a de droit que dans un système de pouvoir. Bon, je dis ça parce que il y a régulièrement en France, hein, parce que nous avons le système de sécurité sociale qui a été le plus poussé, des droits revendiqués qui font partie des droits fondamentaux. Donc, dans la théorie de la Constitution, chez Carl Schmitt, il y a un chapitre sur les droits fondamentaux à différencier des droits sociaux. Par exemple, le droit d'association syndicale, c'est un droit social. Le droit à la liberté, c'est un droit fondamental. Bon, il y a des droits comme le droit à la santé. Évidemment que c'est très relatif de le dire d'une manière aussi lapidaire, de parler de droit à la santé. Personne ne peut prétendre à une santé, personne ne peut prétendre d'assurer la santé pour quelqu'un d'autre non plus. Donc, qu'est-ce que veut dire le droit en question? Il veut dire que quelque chose peut être mis en œuvre pour que dans... la science et la technique médicale du moment, on fasse le mieux possible pour assurer un recouvrement de santé à quelqu'un qui s'en éloignerait. Assurer une santé, a priori, ça me semble difficile, par exemple, on voit ça. Bon, nos affaires de psychothérapie, parce que je ne vais pas suivre les philosophes du droit, je vais essayer d'en parler en analyse, nos affaires de psychothérapie nous ramènent à ce que pourrait être une revendication qui n'a pas encore vu le jour, mais pourquoi pas, qui demande peut-être à être modulée, c'est le droit à l'inconscient. Donc ça, c'est quelque peu ridicule de le dire comme ça, mais je trouve que c'est à peu près dans la même veine que le droit à la santé. On n'en est pas non plus à demander un droit à la subjectivité, par exemple, des choses comme ça. Mais, dire ça pourrait se faire, il suffirait d'une certaine inflexion des choses, il suffirait d'un totalitarisme autrement poussé pour que le droit à l'existence, de toute façon, soit possible. Personne ne parle de droit à l'existence comme ça. On en parle quand ça devient plus social, c'est le droit à l'existence des minorités, enfin, des choses de cet ordre, c'est-à-dire le droit à l'expression des minorités comme telles. Mais sinon, le problème qui est posé en termes de droit, d'une façon générale, dans ces droits fondamentaux du genre liberté, c'est le rapport de l'individu à la collectivité. Là-dessus, je crois qu'on a une base tout à fait correcte. Je fais une introduction très large, hein, par rapport à ce que peut être le topo de ce topo. Premier topo de la série sur ce que j'avançais dans l'argument de ces conférences de nomologie comme y a-t-il un droit de ouais, l'inconscient hein. Pas sûr que tout le monde parle dans ce sens-là, il n'empêche. Donc, notre base assurée sur les rapports de ce qui est plutôt individuel que singulier, je trouve, et collectif, c'est en logique de Lacan. Les modes de relation, d'organisation, dans le temps logique, entre ce qui suppose qu'il y a une collectivité pour que l'individu s'en soutienne, pour que le sujet s'en soutienne, et qui échappe, c'est-à-dire le fait que quelqu'un puisse se trouver en dehors de cette collectivité, donc en dehors de la subjectivité. C'est-à-dire que demander, revendiquer un droit à la subjectivité, c'est quelque chose qui, selon le temps logique de Lacan, peut s'entendre, puisque, comme il le dit, la barbarie peut mettre qui que ce soit en dehors de ce régime de subjectivité. Je dirais même que, avec toute la bonne conscience libérale que particulièrement la France, dont la France se dote, les lois de 75 dites en faveur de des personnes handicapées, c'est pas de la personne, mais des personnes handicapées, loi d'orientation, en fait, est un droit, enfin, définit des droits qui mettent des gens à l'écart de la subjectivité. Parce que sur le principe, on est dans un système comptable. Sur le principe, c'est que le handicap en question n'étant pas défini, et le handicap n'étant pas seulement au bout d'un certain temps, enfin, certains individus étant impliqués dans le handicap, pas nécessairement par la médecine, mais éventuellement par l'école, les commissions médico-scolaires qui existaient auparavant, ayant disparu depuis les décrets mettant en place la loi d'orientation de 75, on a affaire, par exemple, dans le primaire, maternelle et élémentaire, comme on dit, les commissions de circonscription pour l'enseignement préélémentaire et élémentaire, maternelle et élémentaire, ensuite un second degré, et puis, etc. Donc, de telles commissions qui remplacent les commissions médico-scolaires sont des commissions qui réunissent effectivement des médecins et l'éducation nationale et sont entièrement régies par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Donc d'emblée, c'est dans le handicap. Toute la population scolaire, tous les enfants, quand ils sont en échec dans l'école, sont d'emblée pris dans le système du handicap. C'est le premier niveau de questionnement sur la possibilité de les désigner comme handicapés, c'est dans ces CCPE. Ensuite, second degré, commission de circonscription du second degré, et l'ensemble échafaudé par des commissions départementales de l'éducation spécialisée qui a défini qui est enfin dit qui est handicapé, mais ne définit pas. Il veut dire que tout échec scolaire conduit au handicap. Donc c'est pas seulement du handicap repéré médicalement. La médecine, ça va de soi en France, c'est une routine. Sécurité sociale, c'est une médecine sociale, enfin, il suffit d'avoir un certificat médical pour se dispenser d'aller travailler, en quelque sorte. Donc, la médecine fait force de loi, d'une certaine façon, la psychiatrie, moins en moins, par exemple. C'est bien pourquoi le handicap a remplacé, si on était la psychiatrie, par rapport à ce que j'essaie de pointer là, c'est-à-dire la mise à l'écart. Je considère que, comme la bombe atomique, qui n'a pas besoin d'être utilisée, elle a été, bon, maintenant, c'est ce qu'il en est, mais elle n'a pas besoin d'être persistée à utiliser pour être pendue sur nos têtes. Le handicap est pendu sur la tête sur les petites têtes blondes constamment. C'est-à-dire que qui est en échec, on peut dire que tous ceux qui n'ont pas 20 sur 20 pour être en échec, tous ceux qui ne sont pas premiers de la classe, sont handicapés par rapport à l'idéal. Donc à l'envers, il y a un idéal négatif de handicap qui est proposé là, dans lequel tout le monde peut tomber. C'est à la discrétion des commissions. Il n'y a aucune définition, on ne peut même pas se battre pour ça. Donc il y a des obligations qui sont faites. Aux gamins dits handicapés, il y a donc des devoirs des familles et il y a des droits afférents, donc du droit à une allocation d'éducation spécialisée ou des choses comme ça, des droits à être orientés, c'est-à-dire placés dans des institutions. Bon. C'est pour dire que cette question de droit est un pouvoir qui est une épée de Damoclès pendue sur la tête de chacun et qui peut tomber sur n'importe qui. C'est-à-dire personne ne. C'est pas seulement parce que je pense que tout le monde peut être dans un délire à un moment ou un autre, être déclaré fou, et avec, je vous fais remarquer, tout ça va passer sur non seulement l'informatique générale des hôpitaux, mais la petite informatique des cartes de sécurité sociale, où il suffit de voir qu'il y a un remboursement à 100% par psychiatrie pour que tout le monde sache qu'on est fou. Hein, ça s'appelle plus fou, ça s'appelle remboursement à 100% par les psychiatres. Bon, donc, c'est là que les lois redéfinissent les choses. C'est pour dire que les cartes vitales, comme on dit en France, vitales, c'est vraiment le mot choisi, hein, les cartes vitales indiquent de toute façon le rapport à la folie. Hein. Bon, mais le rapport à n'importe quel problème médical. Mais ce que je veux dire, c'est que la position du sujet, elle est de toute façon si définie via l'école et via tous les autres appareils. Donc la question du droit, c'est une question d'appareil. Alors, je reviens à ce qu'il en serait de réclamer un droit. C'est-à-dire, si on le réclame, on ne le réclame pas à Dieu. Personne d'entre les créatures ne s'adresse à Dieu pour lui dire j'ai le droit d'eux, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, il faut déjà être un peu fou pour le faire. Il faut que si Dieu veut s'amuser à répondre, ça peut faire du mal. Donc on s'adresse à un pouvoir temporel, c'est-à-dire un pouvoir qui est censé accorder ce droit. Ça peut être aussi bien, du coup, le pouvoir discrétionnaire de l'adversaire.
Et on pourrait presque dire que, dans un peu plus ramène, que le fait d'avoir un inconscient peut être par un rôle inexplicable, considéré comme un handicap.
Ah bah oui,
comme une absence,
la perception
totale.
Oui. Non, c'est parce que dans les années 75, j'avais fait des textes là-dessus, sur la question du handicap, ça s'est publié dans le Coquet Rond, où la question du hors-sexe et du coup du hors-subjectivité était posée vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire que les gamins sont évacués. S'ils sont évacués dans de mauvaises institutions, comme on en connaît quand même pas mal, ils ne sont mauvais par exemple parce qu'ils n'ont pas de psy pour faire des thérapies, etc., où il n'y a que du gardiennage, il suffit d'avoir un bas prix de journée pour qu'il y ait des élus qui soient en nombre insuffisant, surchargés de travail et qui n'ont pas le temps de s'occuper subjectivement des mômes, donc on s'en occupe en les nourrissant, en les torchant, c'est tout. Donc il y a des gosses qui vont devenir comme la chronicisation des états psychotiques adultes par l'hôpital psychiatrique, il y a des gens qui deviennent des autistes institutionnels ou quelque chose comme ça. Enfin, ensuite, ça fait de la défectologie. Bon, autrement dit, moi je préfère que les gamins aillent dans la mesure du possible toujours à l'école et pas dans des institutions spécialisées, que heureusement je ne trouve pas. Bon. Plus, on ne s'oriente pas tout à fait là-dessus, c'est encore plus compliqué. Il y a des raisons diverses en France qui compliquent les choses, on pourrait en discuter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enfants qui se retrouvent hors subjectivité, ce qu'on appelle autisme, entre guillemets, ça pourrait aller un peu vite. Hein. Et donc, moi, je pense que les autistes sont des sujets. Hein. Et on leur accorde pas un droit à l'inconscient, au sens où on prendrait en compte justement ce qu'il en fait d'un désir chez ces enfants-là. On les oriente au mieux, c'est-à-dire on les place. Là, ils prennent place, alors ils viennent un truc qu'on a mis là, ils viennent un truc. Donc c'est le problème du rapport sujet-objet qu'il faut discuter, je vais venir, hein. C'est la façon dont on est encombré au bout d'un moment par des rapports d'objet. Ça me semble être fondamental, c'est ce qui va faire la matière de mon séminaire du vendredi cette année, sauf les vendredis qui précèdent ces samedis d'Alizimac, où je vais essayer de parler d'épistémologie, mais l'épistémologie de la psychanalyse touchera l'objet aussi dans mon propos cette année. Non mais attends, je ne voudrais pas appeler n'importe quoi signifiant. C'est signifiant au sens où il y a de l'orientation, il y a du réel afférent. Et a priori, c'est une désignation, et du coup, c'est une appellation. On est un handicapé parce qu'il y a une commission qui t'a désigné handicapé. Mais même si on t'a pas désigné handicapé, il suffit qu'on t'oriente à l'école dans des classes spécialisées, des classes d'intégration scolaire, comme on dit, hein. C'est des cubes, là. Non, il n'y a plus que des classes d'intégration scolaire en France. Alors c'est toujours dans le bon sens, intégration, ça pense à un bon truc. Il n'empêche que les gamins qui sont dans ces classes sont des handicapés, puisque par principe, ils ne sont pas dans le circuit exactement normal de la classe banale. Donc effectivement, hein, le droit à l'éducation qui vaut là, les spécifie quand même comme handicapés. Et les spécifiant comme handicapés, le signifiant handicap agit sur eux, souvent pour les maintenir dans des circuits spécialisés, sauf analystes qui réussissent à renverser la marge des choses. Je pense que ça dépend surtout des analystes, ou éventuellement de la conscience politique aussi, des enseignants et des médecins participants du système. Si on participe au système, pour ne pas participer au système, il ne faut pas être médecin, psychologue, etc. Hein. Il faut être psychanalyste chez soi. Et pas faire remboursement, parce que là, on est rendu de nouveaux médecins. Bon, donc de toute façon, on est facilement récupéré par le système. Donc il faut être absolument en dehors des circuits légalisés pour pouvoir être analyste. C'est aussi le problème de la légalisation de la psychiatrie. Donc il faut discuter. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est l'inconscient qui, comme tel, n'y a pas place, puisque en gros, parler de droit, c'est en parler en conscience. Donc je fais une égalité, dès qu'on est dans le droit, on est dans la conscience. Je ne vois pas comment l'inconscient pourrait y trouver place. Hein. Donc, comme Legendre disait que les institutions ne sont pas le lieu de la parole, je pense que plus généralement, le champ du droit n'est pas le champ de l'inconscient. Voilà. Mais le champ de la science non plus, même si on fait certains rapprochements. On peut toujours en discuter. Pourtant, il y dire, le droit à la santé psychique était spécifié. Je n'ai pas revu les textes de la Sécu, mais de mémoire, je me souviens bien de ça. Ils n'ont pas été modifiés, les textes de 45. Mais je vous fais remarquer, puisque on est dans la Constitution.
La loi de 2002, c'est la refaire.
Oui, oui.
La loi de 1964.
Oui, oui.
Ça reste et puis il faut respecter les
choses. Non, mais faut revoir aussi le fond des choses. Parce que la Constitution, là, hein, il s'agit bien dans la Constitution des constitutions des États. Mais c'est très intéressant de voir dit en allemand. Hein. En allemand, c'est Verfassung. Verfassung, ça veut dire écrire, être l'auteur. Le Verfasser, c'est l'auteur. Autrement dit, une Constitution, c'est pas comme la Constitution biologique, hein. La Constitution, au sens du droit, c'est le machin qui a été rédigé pour quelque chose. Donc il y a toujours un enjeu préalable. Il faut voir, puisque Carl Schmitt sert de référence, je dis, il faut toujours savoir quand même quelle a été sa pente nazie pour pouvoir le lire, mais on peut admettre, quand il passe des trucs historiques en revue, ça remonte au moins à 1215 avec la Magna Carta anglaise, hein, donc il y a eu des droits d'individualité. Mais donc, la position même de l'individualité, dit en France, hein, depuis 1945, ça suppose deux constitutions dont on est en général encombré et qui sont dans des rapports difficiles l'une avec l'autre. Il y a la constitution de l'État, donc à partir de 1945, c'est De Gaulle et pas seulement lui, mais entre autres lui, avec la 4ème République, hein, bon, et ensuite il fera la 5ème, etc. Mais de l'autre côté, il y a la sécurité sociale, qui est une vraie constitution aussi, à mon avis, hein, et dont on reste encore empêtré dans des rapports dans des rapports de pouvoir différents avec des rapports de classe, puisqu'il y a à la fois le patronat et le prolétariat qui se trouvent associés, et les pouvoirs publics, évidemment, là-dedans. Donc, il y a deux modes de constitution en France. Je ne suis pas sûr que ce soit pareil dans d'autres pays, il faudrait les voir. On va faire un inventaire des choses, hein. Et les budgets sont énormes à chaque fois, hein. C'est bien parce que le budget de la Sécu est énorme qu'on est fondé à dire que les lois qui régissent la Sécu sont de l'ordre d'une constitution au même titre que les lois de la République. La République peut changer, la Sécu persiste. Hein. Pas encore, on modifie de temps en temps la constitution de la Sécu, mais pas pour l'essentiel. Dire 1945, ça a un sens en France. Hein. Je pense que le droit à la santé, le droit à l'équilibre psychique, etc., le droit à l'intégrité corporelle, entre autres, hein, parce que des droits fondamentaux, il y en avait bien avant, bien d'autres. En 1945, ça tient compte des camps d'extermination. Si ça se fait sur fond de camp, hein, la question du sujet devenu objet, il s'est posé là. Hein. Donc un sujet, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est là pour travailler, par exemple, dans un camp, dans le meilleur des cas. Hein. Donc si on utilise sa force de travail, on va l'user complètement, hein, et on n'aura que ce qu'elle produit de plus. Si on l'utilise pas, il est d'emblée usé, et il passe lui-même en termes de vieux pour devenir de l'engrais, du savon et des abat-jour. Et donc le sujet, alors là, il n'est même pas encore. C'est plus un corps, c'est plus un sujet, etc. C'est encore un sujet, mais dans la... Enfin, ce qui correspondrait à une paupérisation absolue, en l'occurrence, c'est plus qu'absolue, puisqu'on ne lui donne pas à manger, il bosse jusqu'à ce qu'il meurt. Donc la question de l'organisation de la subjectivité par la constitution de la sécurité sociale est posée sur fond de camp d'extermination, sinon je crois qu'on ne pourrait pas comprendre.
Sont deux collectivités alors
Non, c'est deux modes juridiques pour une même collectivité en France, ça concerne tous les Français. Le régime de sécurité sociale est général, il y a eu quelques régimes particuliers pour les cheminots, les agriculteurs, etc., ou les artisans, et en gros ça a été aussi calqué sur un régime général de sécu. Donc, en quelque sorte, c'est du droit à la vie qui est en question. Mais, là aussi, il faut aller beaucoup plus loin. Quand Carl Schmitt revient sur les premières constitutions et les déclarations des droits fondamentaux, hein, comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, mais ça a été précédé par des déclarations variant d'un État à l'autre, des États américains, à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'il y ait donc une constitution de l'Union des États américains, en lutte contre le colonialisme anglais. La Révolution française a suivi, hein, donc elle a tenu compte de tout ça quand même. Mais les droits de la personne existaient auparavant. Hein. Ça existait forcément sur fond de catholicisme. Le problème, c'était de reconnaître, et même avec la découverte d'Amérique, la découverte des Indiens d'Amérique, etc., et la question de savoir si on allait les prendre
en esclavage ou pas, bon, il y a eu l'esclavage des Africains en Amérique, savoir si c'était des humains ou pas, c'est-à-dire des sujets, des Indiens, hein, donc il y a eu le débat de la même chose là, on a tranché sur le fait que c'était quand même des hommes et qu'on pouvait les christianiser. La question qui est posée, c'est la question de l'universel. Par rapport au singulier, par rapport au ciel, à la fonction d'exception qui fasse qu'aucun d'entre nous n'est réductible à un autre, qu'on n'est pas dans un uniforme. Bon, même si le droit est commun, il va toucher des subjectivités différentes, c'est-à-dire pas d'uniformisation, malgré l'universalisation. Donc c'est la question de l'univers qui est posée là. A priori, donc, ça suppose un état de fait. Hein, pour que le droit s'instaure commodément, il faut qu'on soit en paix. C'est-à-dire qu'au minimum, dans un État, c'est la paix entre les citoyens, on peut faire la guerre aux autres. Bon. Quand c'est plus large, comme autour de la Méditerranée avec les Romains, on a quand même l'Empire romain et la question de l'univers romain. Donc ensuite, le christianisme, et précisément le catholicisme, a repris ça à son compte avec la papauté, et l'univers chrétien, l'univers catholique. Mais tadique le tadique. Hein. C'est-à-dire que si on instaure un droit, ça suppose qu'il y ait une paix, autrement dit que la guerre soit spécifiée, mise de côté. De côté, c'est-à-dire qu'on veut aller la porter chez l'autre, ou se défendre de l'autre, ou en tous les cas, et pas chez soi. Hein. Je pense qu'on a quand même affaire, là, avec toutes nos questions de droit international et d'intervention des gendarmes internationaux, que sont les États-Unis d'abord, mais éventuellement la France ou l'Europe, on a affaire à ce que c'est d'exporter la guerre et d'exporter le droit dont on convient. Autrement dit, un mode de subjectivité qui est organisé par le droit, ailleurs, sous forme de la guerre, tant qu'ils n'ont pas exactement accepté les droits en question. Après une bombe atomique, le Japon s'est plié au droit occidental, chose de cet ordre. Hein. Les pays musulmans, soit s'y plient, soit, en tous les cas, des rapports au christianisme tel que ça va fonctionner dans le mode d'universalisation que le droit promeut, est récusé par nombre de pays, a priori musulmans, nombre de citoyens de ces pays s'organisant en des factions qu'on appelle terroristes. Donc, il y a deux points essentiels de fondement du droit à l'heure actuelle, je trouve. Le camp d'extermination et la guerre. Ça se conjoint. Mais la guerre, tel que je l'ai dit aussi par rapport au catholicisme, je vous fais remarquer que chez Lacan, il s'agit de ces trois facticités, hein, celles qui en parlent à la fin de la proposition, pour faire la guerre et pour le rapport à l'adversité, enfin, ou à l'autre qui ne serait pas sujet, c'est l'Église qui s'en occupe. Donc faire la guerre à l'armée et son rapport à l'Église se conjoint dans un mode d'organisation des groupes qui nous fait nous définir dans du droit, qui est quand même du droit d'abord social, avant d'être du droit fondamental. Je ne parle pas du supposé droit naturel, etc. Hein. C'est encore d'autres questions, mais il y a un bouquin de Léo Strauss sur le droit naturel qui est pas mal non plus.
Le pouvoir, c'est le principe du pouvoir, il est forcé.
Oui, le pouvoir, il est là. Le pouvoir, c'est le pouvoir de donner, d'accepter la vie, et pas seulement le mode de vie, mais l'existence, et au fond, un mode d'organisation subjective et un mode d'inconscient de sujet extérieur à la sphère de ce droit, éventuellement, parce qu'ils sont dans un autre pays ou quelque chose comme ça, mais le droit est en train d'internationaliser. Donc, le pouvoir, il est là dans la guerre, dans l'organisation de la paix, parce que c'est toujours une paix armée et ça s'impose, ou dans la guerre. Il faut quand même prendre aussi.
Pas une paix qui est fondée sur un certain droit.
Oui, tu vois. On peut voir pourquoi historiquement l'Union soviétique s'est organisée aussi dans une dictature du prolétariat. Enfin, bon, c'est déjà un concept, je ne sais plus quelle en est l'origine exacte, je n'ai pas vérifié. On peut quand même voir que Lénine, attaqué par la plupart des pays européens, proche ou loin, ou plus lointain de la Russie, était obligé de se défendre, et donc a mis dans le même sac les pays extra-soviétiques et les Blancs, qui marchaient avec, enfin, les autres venaient à la rescousse des armées blanches, en Russie. Donc l'Union soviétique a produit en 1918, enfin, la République soviétique de Russie a produit une constitution établie sur la dictature du prolétariat, ça montre bien le rapport d'adversité, parce que les droits étaient donnés aux travailleurs, c'est-à-dire aux ouvriers et aux paysans, et pas aux propriétaires, etc. Donc il y a un droit réputé opéré largement, qui est le droit de propriété, il faudrait savoir jusqu'où ça va, quoi. De quelle propriété il peut s'agir? Le droit de propriété est récusé, enfin, la propriété des moyens de production, quoi qu'il en soit. Bon. Mais même, c'est-à-dire que quand les conditions de vie font qu'en Russie, en Union soviétique pendant longtemps, il y a eu une cuisine pour Joseph Bart, et des trucs comme ça, savoir le droit de se faire à manger à sa façon sans être gêné par le voisin, faut savoir qu'est-ce qu'on va appeler un droit ou pas. Hein. Non, je dis bien qu'il n'y a de droit que sous condition de la mise en place d'un pouvoir. Et il s'agit toujours du pouvoir sur l'inconscient, et plus au fond, dans le rapport sujet-objet, c'est que je crois que le sujet, en tant qu'il est producteur, produit toujours plus que ce qui est nécessaire à sa subsistance, hein, donc il se reproduit toujours comme sujet, en lui-même, quand il mange, etc., il ne meurt pas chaque fois qu'il produit un truc, pas comme les abeilles qui piquent. Bon. La pointe a une raison aussi un peu particulière, là, c'est de pouvoir s'attendre à ça perd un cadre pour les questions de points, on y reviendrait. Donc le sujet se perpétue avec quelque chose de plus, il se perpétue dans ses enfants. Donc la question de l'éducation, c'est aussi la perpétuation de la force de travail au sens où elle inclut aussi un pouvoir de production intellectuelle, pas seulement matériel. Hein. Donc le sujet est dans les moyens de production pour l'essentiel, et la question de la plus-value est ce dont on est encombré. Hein. C'est la part maudite chez Bataille. Mais il ne s'agit pas forcément d'aller péter le surnuméraire tout le temps, d'aller le brûler. Bon, ça se fait. On fait aussi des gardes pour ça, hein, pour dépenser un trop plein d'éléments de production, pas seulement en termes d'argent. Quoi qu'il en soit, disons que le capitalisme simplifie la vie à tout le monde, puisque de toute façon, le producteur n'est pas en mesure, parce que ça c'est la convention de vente de sa force, c'est la question même du salariat, le producteur ne récupère pas la plus-value de bien capital. Les systèmes socialistes qui ont existé autour de l'Union soviétique, c'était la même chose, hein, c'était du capital d'État, total. Disons, en gros, du point de vue du commun des gens, c'était la même chose. La question posée, c'est quand même qu'il devient dans ce droit, dans le droit bien spécifié, le pouvoir que le sujet a ou pas sur sa production. Qu'est-ce que c'est que... Bon, si quelqu'un a fait une casserole, il peut l'utiliser, mais il ne peut pas la récupérer comme d'avant qu'il l'ait fabriquée. Donc on est toujours quelque peu encombré, comme sujet extérieur aux objets, des objets qu'on fabrique, ou de toutes les fabrications, au sens d'objet le plus large qu'on veut, hein, même si c'est un concept, ce n'est plus en question. Hein. Je veux dire, une fois qu'on a fabriqué un concept, il faut savoir quoi faire avec. Bon, la même chose, là, avec ces questions de plus-value, qui renvoie pour le sujet qui est pris dans son existence, c'est-à-dire dans sa jouissance, on appelle ça une jouissance phallique, mais ça n'est pas sans rapport à la jouissance de l'autre dont on a aussi à discuter. Mais cette jouissance phallique, en termes de production, produit toujours plus qu'elle-même, c'est plus de jouir. Le sujet est encombré par son plus de jouir, dont on peut toujours dire merci à qui je lui soustrais, comme ça c'est parfois un peu simple. Hein, bon. C'est pourquoi, dans les périodes de guerre, il y a moins de délire, moins de déconnage, parce que, effectivement, la question du plus de jouir est entièrement organisée, par exemple, hein, par l'armée. Bon, quand on est dans ce rapport-là où on veut bien mettre entre parenthèses, qu'il en est ce que j'appelle l'intention avec un S, c'est-à-dire le fonctionnement subjectif même, ben, on fonctionne comme les choses. Les choses, ils sont des transcriptions, de toute façon, de l'intention, on fonctionne extensionnellement. C'est ce que Lacan, quand ça ne cesse pas de fonctionner extensionnellement, l'appelait facticité. Hein. Je vous rappelle donc les trois modes. Il y a un mode qui est du côté d'armée et d'église, du mode des groupes. Hein. Et il y a le réel de l'extermination du corps, et de la ségrégation et du camp. Donc il y a les groupes et il y a le délire. Dans des extensions qui ne reviennent pas sur l'intention pour rappeler en quoi il y a un trou à la base. Hein. Quand les choses sont clivées et qu'on en a oublié le trou fondateur, le trou du signifiant, le mode d'articulation du signifiant, qui passe qu'il n'y a de signifiant qu'à appréhender le trou dont il dépend pour s'en soutenir. Donc le trou, ça s'appelle en termes symboliques l'articulé signifiant. Si on oublie qu'il y a un hypothétique dans ce rapport-là, il faut bien avoir considéré que l'articulé a déjà eu lieu pour que quelque chose s'en soutienne. Quand on prend les choses comme assurées, on est dans le délire, dans l'extermination, dans les groupes, tout ça on le sait. Hein. Simplement, on peut comprendre le droit, et je pense que les philosophes ben, qui n'ont pas eu Lacan, qui ne sont pas dans l'analyse, les philosophes du droit, oui, et ceux qu'on ne cesse de rabâcher, donc ils ont déjà un siècle hein, maintenant d'existence, parce que là, il faut peut-être passer à des philosophes plus actuels. Hein. Bon, pour la justice avec Rawls et d'autres plus actuels, mais on est toujours dans un système de production libérale. Donc on a à discuter de ce que c'est que la production libérale du sujet. À mon sens, c'est sûrement bien différent de la production du sujet antique, hein, de la mythologie. Il n'y avait pas des droits de la personne à Athènes, comme on en parle dans les pays libéraux actuels, parce que il y avait l'esclave, c'est sûr, le citoyen allait faire la guerre, c'était un droit, un devoir qui n'avait pas besoin d'être prescrit, c'était dans l'ordre des choses. Hein. Sinon, je vais déjà qu'il soit fou, c'est quoi pour être de côté, ou trompeur, comme un diable, pour passer d'un camp à l'autre. C'est pour dire que le rapport du sujet au droit est forcément variable. Là, on est maintenant dans, disons, depuis la fin du XVIIIe, à partir de tout un secteur de la philosophie, dans un juridisme de la subjectivité auquel tout le monde prétend, et donc on s'adresse toujours à l'État comme s'il avait à accorder un certain nombre de choses, c'est ce qui se fait avec les psychothérapies, hein, au détriment en fait de ce qu'est le propre mouvement du sujet, je veux dire sa liberté, je ne dis sûrement pas. Je trouve qu'accorder la liberté, ça ne vaut pas. Enfin, ça vaut par rapport au totalitarisme. Mais qui est-ce qui peut accorder la liberté à quelqu'un ? La liberté, ça se prend. La santé, on se la forme. C'est comme un droit au sport, je ne sais pas quoi, ça ne vaut pas. On fait du sport, on en fait pas. Bon, les droits fondamentaux, je pense qu'ils viennent masquer des rapports qui sont des rapports dont la psychanalyse s'occupe, qui sont donc des liens du sujet à l'inconscient. Et incluant, évidemment, ce que je veux dire, hein, les rapports signifiants, les rapports d'objets en termes de QA et de queer, mais dans des termes qui sont des termes dépassés, des termes philosophiquement dépassés. Hein. La liberté, la propriété, le droit à la sécurité, le droit à résister, le droit à sa société, le droit à la conscience, le droit à la liberté religieuse. Donc, c'est le droit à la croyance. Hein. On est dans la conscience. Hein, croire dans tel lieu ou dans tel autre, être conscient de l'existence de tel lieu ou de tel autre, parce qu'en termes de conscience, dessous, s'il y a d'inconscient qui amène quelqu'un à faire ce choix, ça n'apparaît pas. Qui nous occupe, par exemple, hein? Parce que si on parle de droit, on est effectivement... Quand on parle de droit, on parle de normes, hein? Bon, Kelsen ne se trompe pas, hein? Il y a plein de chapitres intéressants. C'est lisible, c'est grand haut, mais c'est lisible, pas à pas. C'est vrai que ça ne fait pas notre quotidien, c'est un peu dommage, hein? Je le regrette pour moi-même, donc. Pour vous, que je suis à peu près sûr que vous êtes comme moi plus lecteur des philosophies du droit. C'est dommage parce qu'il y a énormément de choses qui nous importent là-dedans. Moi, avec la psychanalyse, Freud et Lacan, dans le même type de schéma, non poussé à la facticité, considère que les droits se donnent en termes d'obligations, de commandements, hein, les devoirs aussi, et d'interdits. Hein. Donc ça, l'inceste est là pour nous. Savoir comment le rapport à l'inceste fonctionne. Hein, chez Lacan, lui, il le situe de manière métaphorique. A priori, chez Freud, c'est quelque chose de métaphorique, mais sous la métaphore, c'est un rapport au droit qui se situe là, avec des rapports d'interdit. Et précisément, il n'y a pas besoin de faire un droit, je vais dire une bêtise, il y a tel quel, je pense plutôt au dit commandement, il n'y a pas besoin d'avoir un commandement qui interdit l'inceste, que ça va de soi. Le truc est acquis. L'inceste social dans la famille organisée socialement étant battue en brèche, il y a effectivement un droit sur la sexualité qui est indiqué. On ne s'occupe pas assez comme analyste, peut-être, certains oui. Tous les analystes qui, sous couvert d'être psychiatres ou psychologues, deviennent des experts juridiques, hein, à propos des perversions, etc. Donc cela s'occupe du droit, mais pour s'occuper du droit, on en oublie, derrière la clinique, des rapports de structures qui sont de l'ordre de la structure modale, sur lesquelles Lacan n'a pas assez insisté, puisque lui, il a parlé des structures antiques, hein, les faire impossibles, possibles et contingents, donc au détriment de ce qui est l'obligatoire, l'impératif, l'interdit, le permis et le facultatif. On voit bien en quoi le droit ça suppose effectivement une théorie des normes, c'est-à-dire une théorie déontique de la modalité. Et la psychanalyse est là-dedans. Quand on lit ça dans Freud, les termes sont toujours posés. Donc toute la structure de la théorie freudienne peut donner d'une manière déontique, plus qu'ontique. Lacan nous en a un peu éloigné, je trouve, en nous ramenant une philosophie un peu plus complexe et proche, donc avec l'ontique de l'ontologie. Mais on est un peu plus dans des liens qui nous rapprocheraient du social et du politique par la déontique de la structure du sujet. Et on s'occupait de ces rapports modaux et du pouvoir du signifiant, parce que le fond du pouvoir...
Oui, mais c'est la question de la terre, de la terre, ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de l'ordre de la parole?
Oui, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est pourquoi c'est en termes de signifiant. C'est-à-dire que quand je parle de guerre et d'emprise sur un autre, c'est pas tellement l'emprise sur un sujet, c'est la façon dont on peut s'assurer soi-même de sa position subjective en l'imposant à d'autres par du signifiant. Hein. C'est soit par les armes, mais par la parole d'abord, et le droit, et un mode d'organisation de la parole. Et la politique, c'est ça. Hein. Je ne suis pas sûr qu'un capitaliste, il y a une plus grande bagnole, une plus grande... plus grande demeure ou 25 demeures et un yacht ou 25, je veux, mais je veux dire, il mange, il dort, il baise, il est malade comme tout le monde. Il est sujet comme tout le monde, personne n'échappe à sa subjectivité. Bon, hein, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur avec facilité grandement, mais il n'empêche que le capitalisme, il a des emmerdements aussi. Bon, ça concerne quelques personnes, hein, les capitalistes, on n'a pas tant que ça, ils sont comptables, il n'y en a pas, hein, ça ne fonctionne pas dans l'illimité.
La philosophie du droit, c'est un discours du maître. Donc,
il y a un complément. Oui, si on veut, mais on ne peut pas mettre le discours du maître à toutes les sauces non plus, parce que le discours du maître, chez Lacan, ça s'appelle maître vis-à-vis de l'esclave, parce qu'il y a des problèmes de traduction de la phénoménologie de l'esprit. Donc, il faut revenir à une théorie de la parole, effectivement, une théorie du signifiant, une théorie de l'écriture. Il donne d'abord dans les religions, enfin, dans ce qui a été dominant là, pas du bouddhisme en termes de en nom, mais dominant politiquement, c'est comme le christianisme, hein, tel que
François de Carbouchy,
oui,
en
plusieurs. Hein,
quand on voit le fond du pouvoir,
oui. Le fond du pouvoir par rapport à ces questions religieuses, là, c'est de savoir que non seulement comment faire marcher les gens à l'unisson, faire organiser des foules, hein, mais savoir quoi faire de ce qui échappe, de toute façon. C'est une question d'échappement. L'objet échappe au sujet, mais plus fondamentalement, c'est le rapport que Freud va appeler paternel, c'est la structure fonctionnelle de l'intention qui échappe, elle est insaisissable. Donc il y a quelque chose qui échappera toujours, la question du trou, et les bras vont s'occuper du reste, vont faire en sorte de structurer, de constituer, donc d'écrire, comme dit Thorfinn, hein, de mettre en place ce qu'il en est des extensions. Hein. Donc on va mettre en place les discours, les images, on voit bien le droit de la publicité, des médias, etc. Le droit du réel et des objets, le droit de la production, hein, bon, et le droit des familles, bon, le droit à la santé, on va s'occuper des extensions au détriment de l'intention et au détriment donc de ce qui vient là en intention, c'est-à-dire la jouissance famille, ce dont le sujet se soutient, hein, ce dont il bénéficie, qui est sa fruition, et sur quoi s'établit son existence. Hein, c'est comme sujet, ça s'établit sur de la parole et de la signifiance, même pas des signifiants proprement dit, hein, mais sur de la signifiance hein, en tant qu'elle produit des signifiants proprement dit, et à partir de là, tous les modes d'organisation. Donc le pouvoir, c'est toujours un pouvoir d'occultation. Oui, je vois ce que j'ai oublié de ça. C'est un pouvoir d'occultation de cette question-là. À cette place-là, bien sûr qu'on met Dieu, mais pour ça, pour savoir à quoi ça correspond, pour en revenir à Marx, auquel je référais là, avec la force de travail, etc., il faut passer par Hegel. Dans le même temps que Hegel, il faut se taper l'idéalisme allemand, il faut se taper Schelling, avant Fichte, mais rien que Schelling, hein, je le dis par rapport à la prochaine fois où je ferai un topo qui a des dévoilements par rapport à l'Étéia, la question de la vérité chez Heidegger, mais c'est la révélation, on le traduit comme ça en français, hein, chez Schelling. Les révélations, c'est Für Offen, ça ne vient pas Für, hein, je pense que c'est Offenbarung, c'est-à-dire quelque chose où il y a de l'ouverture, hein, c'est fabriquer de l'ouverture. Bah, c'est toute la question du droit, ça c'est une philosophie. S'éloigne de la christologie, du côté mythique, etc. Tout en étant qualifié d'idéaliste, moi je veux bien, mais il faisait pas une philosophie des sciences, hein, Schelling. Il s'occupait, au travers de la christologie, alors qu'il n'était pas spécialement catholique, s'occupait effectivement de la structure phallique. Du coup, il faut lire, c'est les trois volumes, hein, traduits en français, c'est absolument accessible, hein, c'est très visible, je ne trouve pas ça emmerdant. Hein, c'est la question de l'ouverture subjective qui est posée là, derrière la théorie de la révélation. Lacan en parle aussi comme ça de la révélation. Bon, mais c'est vrai que c'est une théorie du signifiant. Mais lisez Carl Schmitt, la théorie de la Constitution, bien que sur les droits fondamentaux, quand il passe en vue un tas de choses, avant le nazisme, hein, mais ça conduit au nazisme, je me rappelle, c'est la question du rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, tel qu'il vaut dans les institutions, l'autre, tel qu'il vaut dans l'ensemble des petits autres avec lesquels on fait, tous ces rapports-là, et la position individuelle du sujet qui disparaît dans le rapport à l'autre. Enfin, le sujet à la fois apparaît et disparaît, admettons le schéma vient, et dans, il vaut comme sujet, il vaut comme autre, il vaut comme sujet, il vaut comme autre, ça circule. Le droit met ce rapport bien en œuvre avec une coupure, puisque ça ne sera jamais que sphérique, je pense, que conscient et sphérique dans le droit. Ce droit-là, c'est d'abord un droit des affaires internationales, qui est aussi du coup un droit des rapports entre États, du coup, et aussi un droit de paix et de guerre et de gendarmerie internationale, du coup. Bon. C'est un droit de ces unions qui ont été fabriquées, hein, la Société des Nations, l'ONU, etc., qui ont été fabriquées après les guerres, à chaque fois, hein, et qui mettent en jeu justement ce qu'il en est d'impérium du pouvoir, tel qu'il s'est établi à partir des Romains via le catholicisme, qui est constamment de toute façon un pouvoir sur les sujets. Donc on ne peut pas demander à un droit sans récupérer un pouvoir, à mon avis. Donc c'est un jeu à double tranchant. Être d'un côté, on peut tout de suite basculer de l'autre, parce que grâce à ça, on est dans ce qui est atmosphérique. Bon, je ne vous fais pas la lecture, hein, vous avez tant fait là, franchement, ça vaut le coup. De Schmitt, Kelsen et bien d'autres, hein, les autres choses. Bon, je reviendrai à regarder.
Le pouvoir que la catholicité a introduit sur les sujets et le pouvoir que les protestants, puisque là,
c'est un peu. Non, mais ça revient au même, il y a une récupération. Là, il faut lire, effectivement, Frédéric Nathan-Jura est bien axé, je vous dirai ça peut-être au colloque de dimanche sur la psychanalyse, sur la privacité du sexe, comment on dépend quand même aussi du protestantisme, donc du rapport du capitalisme au protestantisme, hein, mais je trouve qu'il est fondé, ce sont des particularités, tout ça, l'Immaculée Conception, les images, enfin, ce qu'on veut, ça n'est que de la petite différence, je veux dire, l'impérium, il est toujours là, je veux dire que l'américanisme, tu regardes Bush, le Conseil des ministres américains, il commence par une prière, ça marche, Bush, j'espère bien. Le problème, c'est que la vie est simplifiée, si au lieu d'avoir un trou, on a un dieu, c'est complet. Mais le droit, ça se révèle en français, quand on dit jouir d'un droit, effectivement, tu jouis d'un droit parce que le droit vient masquer ce qu'il en est de la question de la jouissance. Voilà. Donc tu jouis du droit parce que tu ne jouis pas du signifiant, du vide. Donc tu as un truc qui va meubler ton espace subjectif et ton espace social. C'est venu spatial au lieu d'être dans un rapport de parole qui, pour moi, est toujours un rapport temporel. Hein. C'est la différence que fait Lacan dans le rap avec le côté énonciation et le côté énoncé. Donc on en oublie la temporalité, qui est une temporalité hypothétique, hein, donc de l'anticipation, comme dans le temps logique, etc. Et pour moi, le temps logique, c'est une structure d'extensibilité. Hein. Bon. Il n'y a que l'hypothétique initiale de l'organisation réflexive de chacun des trois prisonniers dans le temps logique qui nous ramène au trou. Et puis à la fin, ça nous y ramène invinciblement, puisqu'il faut qu'il y ait une rupture avec toute l'organisation réflexive extensionnelle. Mais sinon, ça montre bien comment on arrive à de l'extension. À un moment, il faut rompre avec l'extension, sinon on joue au trou. C'est-à-dire les trois prisonniers ne savent pas comment sortir s'ils ne rompent pas avec leur organisation. Non, non, mais je veux pas de pointer quelqu'un, mais le pouvoir, j'en fais une affaire de signifiant. C'est parce que l'avantage du père de l'art primitif, c'est que tu ne l'as jamais tenu devant toi, tu n'as jamais serré la main.
Ouais.
Bon.
Mais oui, comme le pouvoir.
Non, mais.
Comme le pouvoir au sens où tu en parles, avec lequel je suis d'accord.
Oui. Non, mais parce que ça renvoie au pouvoir du signifiant, c'est-à-dire à la signifiance, c'est-à-dire à la structure hypothétique du signifiant en termes de trou. On arrive toujours à la signifiance qui n'est pas tangible. Les signifiants déjà ne le sont pas trop. on ne peut pas les confondre avec les mots, etc., qui n'en sont que des représentations, c'est tout le problème de la structure. On a à choisir aussi quelle structure on veut, quel mode de tronc on veut. Hein. Là, il y a des choix. Quand c'est un tronc sphérique ou une structure sphérique, hein, c'est autre chose qu'un un tronc veut bien une structure asphérique, on est dans la politique, on n'est pas dans la psychanalyse. Et pourtant, il y a des rapports hein, avec le plan projectif. On voit bien qu'il y a une organisation des deux trous qui peuvent s'équivaloir pour nous donner un plan projectif. On ne quitte jamais la question du pouvoir. Hein. Mais ça renvoie au pouvoir des initiants en tant que le pouvoir restera toujours inaccessible et infondé. Le problème, c'est la question des fondements. Hein. Je veux dire que quand on va parler de liberté comme un fondement nécessaire, c'est une liberté religieuse en quelque sorte.
Le thé est supposé savoir et il n'y a pas de sujet sur les pouvoirs.
Bon, ça n'est que de la supposition, comme ça. Si, en termes de supposition, oui, il y a du sujet supposé pouvoir, du sujet supposé savoir, supposé. Point, c'est insisté sur ce que veut dire supposition. Quand je parle d'hypothèse, ça vaut supposition pour moi, c'est autre chose. Hein. Mais bon, c'est tout le problème de la structure conscience, hein, et de l'absence de garantie. C'est-à-dire, quand on s'adresse à quelqu'un, en réclamant un droit, on s'adresse toujours hein, du coup à un pouvoir, du coup, l'étendant du pouvoir maintenant sur tous les États, ça peut être d'autres, hein. Ça peut être le directeur, il y a des petits tenants du pouvoir, il y a des sous-pouvoirs. On l'instaure comme Dieu, comme le tenant-lieu de la puissance inaccessible. On voudrait comme ça, au travers de ce tenant du pouvoir, accéder à la puissance phallique, et de là, hein, une possibilité de production du plus de jouir, dont la question de la récupération est toujours posée. Posée, à mon avis, fait la politique dans ses incertitudes, surtout. Hein. Mais il faut remarquer que pratiquement, il y a très peu d'associations qui ne sont pas adressées au ministère de la Santé pour se faire reconnaître comme institution de psychanalyse ayant pignon sur rue et formatrice de psychanalyse. Hein. La dimension de la psychanalyse. Pratiquement toutes les autres avec lesquelles nous travaillons en France qui sont adressées. On peut les dire que l'école de psychanalyse de Freud, je crois, même par intermédiaire, c'est pas adressé. Peut-être que oui, je sais pas, l'école lacanienne. Les associations qui marchent isolément ne se sont pas adressées au pouvoir d'État, dimension de la psychanalyse non plus. Sinon, la plupart ont convergence, je veux dire, associative. Et je n'y dis rien.
Moi, je pense que si on veut jouer le jeu du social, la seule condition pour être résistant, de pouvoir être un psychanalyste sans être traité de fou par le politique, ne suppose pas qu'il y ait une organisation de psychanalyste. Parce que sinon, s'il n'y a pas une organisation générale de psychanalyste, qui nous a inscrit dans le social, c'est nécessairement un peu.
Non, moi je pense que le social ne peut pas reconnaître ce trou.
On revendique le droit. On veut, monsieur, pour être honnête, c'est plus ça, on revendique le droit.
Non, mais c'est un sujet. Non, pour. Non, mais que fait la psychanalyse hein? Le travail de l'analyse, c'est de revenir à l'intention, c'est d'aller reconnaître en quoi la puissance phallique est un trou. Il n'y a pas de fondement de l'autre ni du sujet, ça s'appelle le signifiant phallique ou le point phallique.
Pour le politique, ça existe.
Mais oui, c'est bien ça. C'est pourquoi on ne pourra jamais faire reconnaître la psychanalyse dans ses propres termes par la structure politique. Hein, et que on n'a pas. Mais bien sûr.
Mais il n'y a pas de la politique.
Mais c'est pour dire que de toute façon. Non. Politique va prendre des sujets conçus philosophiquement à partir d'une base religieuse, philosophique, ce qu'on veut, sociologique, et prendre la part du sujet de l'inconscient en jeu. On va pas le sujet d'énonciation. Hein. Quand on donne la parole aux gens, c'est pour qu'ils expriment du contenu, c'est pas pour qu'ils y parlent dans une subjectivité correspondant à une structure phallique. Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'il puisse y avoir un droit à l'inconscient. Alors que ce serait un droit fondamental. Et du coup, il n'y a pas de droit fondamental, il y a des droits sociaux, tout. Il n'y a du coup que du pouvoir et des rapports de pouvoir. Hein, donc l'Union soviétique en 1918 instaure un rapport de pouvoir, c'est clair. Maintenant, les rapports de pouvoir sont stocks, mais ils sont possibles.
Donc deux expressions singulières, la problématique est dangereuse en ce qui concerne la politique à certains. Tout est très employé, sauf si la psychanalyse est reconnue.
Non, parce que les expressions singulières sont cantonnées. Ce sont des expressions qui sont dites soit de handicapé, ou on dit que c'est un fou. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour appeler l'alcoolique. Le fou, il a le droit de raconter l'alcoolique, parce que c'est un fou, on ne va pas s'en occuper. Hein. Ou ça peut être un artiste, les artistes sont fous, je sais pas. Ça peut être une femme, les femmes sont folles. Fais attention avec l'alcoolique. Non, je crois que ce que vise de toute façon le pouvoir, d'une manière générale, c'est une facilité, comme pour la religion, c'est de fabriquer de la structure signifiante et de répondre à l'interrogation sur la structure signifiante. Hein? Là-dessus, entre les religions, la Trinité, hein, c'est un mode d'organisation du signifiant, une tentative de rendre compte de ce que fait le signifiant, exactement. Hein? Non, c'est pas mal, la Trinité. Hein? Mais la Renaissance bouddhiste, l'unité dans la métempsychose, c'est un truc qui est pas mal non plus pour rendre compte du 1. Hein. Du 1, du 3, enfin, toujours pareil, c'est la question du 1. Du 1 en 3 ou autrement. Bon. Donc il s'agit toujours de la constitution du sujet. Hein. Simplement, on le constitue de l'extérieur, on ne le constitue pas intrinsèquement, évidemment. Il se constitue. Le sujet n'est pas toujours le même, il varie en fonction des époques, des rapports de force, c'est-à-dire des rapports de pouvoir et des questions politiques et juridiques telles qu'elles apparaissent. Hein, donc selon les époques, le sujet va être aussi variable et de toute façon, il y aura toujours un pouvoir. On est toujours dans de la constitution. Hein. Constituer de l'État, c'est constituer du sujet. Voilà. Donc, c'est d'écrire. Quant à force de loi, ça dépasse le roman. Sinon, a priori, c'est le roman. C'est chacun qui fait une constitution de sujet dans sa tête. Hein. Donc le roman individuel du névrosé, ça passe pas encore au pouvoir d'État, mais ça pourrait. Bon, donc, on est toujours dans un constitutionnalisme du sujet, effectivement, qui n'accepte pas la liberté de mouvement du signifiant, en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. La contingence de l'organisation signifiante, même à reconnaître qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas exactement prévoir que ce qui est aujourd'hui va donner demain, c'est pas admis. Donc il s'agit bien de légiférer pour faire une planification à 5 ou 10 ans. C'est quoi ça? Donc, la question de fond, c'est faut-il constituer du sujet? C'est sûr que chez nous, la réponse est à peu près facile. Ah oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que on est dans maître et esclave parce que c'est une traduction qui a cours. A priori, c'est pas ça, hein, c'est de servant de l'objet. On est plutôt dans le maître et serviteur, enfin le maître au sens du celui qui emploie et le serviteur, c'est pas le maître à l'esclave. Donc discours du maître, il faut aussi l'entendre dans une variation qui est une variation politique selon le moment et le type de juridique en jeu. Hein. Moi je dirais que l'État, c'est toujours une tentative de normer le pouvoir du signifiant en faisant comme s'il était maniable. Hein, donc maniable par un sujet, plusieurs sujets, droit d'association, etc. ou par tous les sujets. Dans un État ou maintenant sur le monde. Hein.
C'est un discours qui va contre la psychanalyse.
Ah, bah oui, moi, je pense que tout discours politique va à l'encontre de la psychanalyse. La psychanalyse est politique parce qu'elle ne peut pas être cernée par un quelconque discours politique. C'est en cela qu'elle est politique. Et qu'elle elle n'entre pas dans la politique. Mais les analystes ont intérêt à s'occuper de politique pour savoir justement à quoi ils se heurtent.
Il n'y a pas une pénétration dans le discours plus que dans l'autre.
Oui, bah les analystes étant des gens, évidemment, ils sont dans l'idéologie de tout le monde et ils s'imaginent des trucs n'importe qui que l'on pourrait s'imaginer. C'est parce que, là-dessus, je suis bien d'accord avec Pascal, on n'a pas suffisamment constitué, là je suis encore dans la constitution, constitué la structure subjective telle qu'elle est mise en jeu par la psychanalyse. Peut-être que il faudrait parler de structure subjective variable selon les champs dans lesquels le sujet se présente.
Je pense que dans la mort de Bernard, je pense que dans le reste de la fête,
il y a le diable de ce côté-là, il n'y a pas le diable.
Non, c'est bien plus grand, mais c'est pas ça que je dis. Je dis que les psychanalystes, au travers de leurs associations majoritaires, lacaniennes et non lacaniennes, sont allés demander à l'État un droit à l'existence. C'est là un énorme problème. Non, mais où ils rêvent à des politiques, ils rêvent de ne pas être des analystes. Voilà.